Chapitre 10. Dom Martin, comme la plupart des vieillards, pensait à son testament et en parlait quelquefois, mais il renvoyait à le faire de jour en jour. Il est des hommes dont l'illusion va jusqu'à croire que la mort aura la patience d'attendre qu'ils aient accompli cet acte important, mais la mort, hélas, n'a d'égard pour personne. Ici-bas, la seule égalité véritable n'existe que devant elle. Un jour de Noël, à la sortie de la grand-messe, à laquelle, suivant son habitude à toutes les fêtes solennelles, il avait rempli ses devoirs religieux, Dom Martin était assis dans une salle basse du rez-de-chaussée. Par terre et sur des nattes, on voyait des morceaux de lard, des quartiers de porc, des boudins, des saucisses, distribués en égales portions. Chaque domestique, soit de la maison, soit des champs, arrivait successivement et emportait sa part des provisions, augmentée pour les maîtres valets et les serviteurs de confiance, de poulets et de chevreaux. Dom Martin, ravi de cette scène, qui pour lui était une fête, recevait de tous les remerciements les plus naïfs et les plus chaleureux. « Dieu vous le rende, Seigneur, lui disait-on, Dieu vous le rende en fortune et en santé, afin que vous fassiez toujours ces bonnes œuvres qui sont autant d'échelons pour monter au ciel. » À ce moment, passèrent deux hommes portant un grand chaudron et une énorme corbeille de pain. C'était le dîner que Dom Martin envoyait chaque jour aux pauvres prisonniers. « Eh, eh !» cria Dom Martin avec sa grosse voix. « Vous êtes bien pressés. Attendez un peu, je veux juger par moi-même si tout est bien. » Les hommes s'approchèrent. Une cuillère. La cuillère arriva comme par enchantement, car la patience n'était pas la vertu favorite de Dom Martin. Il la plongea dans le chaudron plein de pois chiches et, en l'honneur du jour de Noël, de morceaux de chevreau, goûta le ragoût, puis, hochant la tête, « Qu'on me fasse venir la cuisinière, » dit-il. « Écoute, Marie Souillon, depuis quand a-t-on brûlé mes oliviers ?»« Et pourquoi, monsieur, me fait-il cette question ?»« Parce qu'il me semble que tu as mis de l'huile pour l'amour de Dieu. »« Et puis, on ne trouve donc plus de sel à acheter, sans doute. »« Mais si, je pense. »« Eh bien alors, reine du soufflet, pourquoi ce ragoût est aussi insipide que toi ?» Les assistants se mirent à rire et la cuisinière s'en alla tout interdite. À peine était-elle partie que la tante Latrane entra tout à coup de l'air le plus dégagé du monde. « Encore vous ? » s'écria Dom Martin. « Avez-vous oublié votre promesse ?»« Seigneur, répartit la vieille avec aplomb, parce que l'âne a rué, faut-il lui couper la patte ?» Je viens, comme c'est mon devoir, en mon nom et en celui de ma commère, vous souhaiter. Me souhaiter, au diable vous et votre commère, moi qui commençais à vous oublier. Ceux qui sont rassasiés oublient bien vite ceux qui sont affamés. Je viens donc vous souhaiter un bon Noël, ainsi qu'à votre digne épouse, Dona Brigitte, au respectable monsieur l'abbé et à la charmante seigneurita Clémencia qui ressemble à une corbeille de fleurs. « Oui, oui, et vous qui ressemblez à un paquet d'orties, dites tout simplement que vous venez en votre nom et en celui de votre commère la ressuscitée, me demandez l'étrenne et vous aurez dit la vérité au moins une fois dans votre vie. Quand un chien remue la queue, ce n'est pas pour vous, mais pour le pain. »«
Jésus, Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire rien par intérêt. »
« Capable, c'est-à-dire que vous êtes capables toutes les deux d'aller faire la barbe au diable, d'arracher les dents à un pendu et de vous moquer des âmes du purgatoire. »«
Monsieur pense peut-être que moi et ma commère, nous sommes des gens de rien, des va-nu-pieds ? Non, Seigneur, tel que vous nous voyez, nous sommes de race. Les ancêtres de ma commère étaient dans le temps passé des gens considérables, si bien qu'un roi d'Espagne les surnomma « Machuca », c'est-à-dire massu, tant ils avaient frappé fort sur les morts. Et maintenant qu'il n'y a plus de morts, vous cassez la tête des chrétiens. Quoi qu'il en soit de votre généalogie, je ne veux pas, en l'honneur de ce saint jour, vous laisser aller les mains vides. Juan, dit Dom Martin à la femme de charge, donnez donc à Madame Machuca une cuisse de chevreau, deux miches de pain, deux livres de lard, et qu'elle s'en aille où va la fumée chassée par le vent. La vieille suivit Roanne et revint chargée d'un panier rempli de provisions.
« Que faites-vous là, immobile comme un terme ?» dit Don Martin en voyant qu'elle ne s'en allait pas.
« Je voulais dire à monsieur que ce pain est bien dur. »«
Mieux vaut un tien que deux tu l'auras, madame Machuca. »
« Mais ma commère n'a plus de dents. »«
Qu'elle en emprunte ?»«
Mais il y avait du pain tendre et Juan a fait exprès de me donner du pain dur. »«
Il n'est de sauce que d'appétit. » »«
Il y avait aussi là des gâteaux si appétissants que j'en ai pris un et Juan... »
« Caramba, quel oiseau de proie! Tout ce que vos yeux voient doit donc tomber sous vos griffes !»«
J'ai voulu vous avertir, monsieur, de l'affaire du pain dur. Puis encore, je dois vous dire que pour le lard, on ne m'a pas fait bon poids. »«
Peste soit de la sorcière! Et pourquoi venez-vous sans cesse m'étourdir de vos demandes si vous ne devez jamais être contente de ce que je vous donne ?» Faudrait-il, par hasard, engraisser vos cochons avec des amandes pralinées et pétrir votre pain avec du lait?
Je viens à vous parce que vous êtes riche, car autrement, je ne mettrais de ma vie les pieds chez vous. Pour une once de miel, vous donnez 10 livres de fiel.
Par la Madone du Lagar, s'écria Don Martin furieux, vous me feriez regretter d'être riche. Sortez, quand je vous vois, je crois toujours voir le diable. « Sortez, vieil épouvantail !»«
Pas si épouvantail, seigneur Don Martin. J'étais fort bien à 15 ans, et quand mon Juan revint de la guerre pour m'épouser, il me dit bien que de sa vie, il n'avait vu une femme plus jolie. »«
Eh bien, maintenant, quelque brave qu'il eût été à la guerre, à coup sûr, il se sauverait de peur en vous voyant. Et là-dessus, partez !»«
Bonsoir, seigneur Don Martin. » « Allons, que Dieu augmente encore en vous la fortune et surtout la bonne volonté. Mes compliments à la seigneur et à la seigneurite. »
Don Martin se leva pour se rendre au salon. En traversant la cour, il se trouva nez à nez avec la tante Latrane qui revenait sur ses pas.
« Que le diable t'emporte, dit Don Martin. N'êtes-vous pas encore contente, vieille sangsue ?»
« Seigneur, il fait un froid à couper le visage et fendre le crâne. Voyez dans quel état se trouve mon châle, » ajouta-t-elle en lui montrant celui qu'elle avait dessus.
« Donnez-moi un autre. »
« Il y a peu de temps, madame vous en donna un. »
« C'est vrai, mais ce qui n'est pas neuf dure si peu. Est-il donc juste que je meure de froid ?»«
Est-il juste aussi que je sois votre fournisseur général ?» « Allons, vous avez assez reçu pour aujourd'hui et je suis à bout de patience, » dit Don Martin en lui tournant le dos. La tante Latrane partit enfin en grommelant. Ce jour-là, quand on se mit à table, Don Martin était de meilleure humeur que jamais. « Dis-moi, Juan, » demanda-t-il à la femme de charge, « que signifie ce tas de monde que j'ai vu dans la cuisine ?»
C'était la tante de la cuisinière, le cousin de Miguel, la nièce de ma belle-sœur, la belle-fille du cocher, la...
Bon, bon, invitez un convive et vous en aurez 100. Ceci me rappelle une histoire. Au temps où notre Seigneur parcourait le monde avec ses apôtres, la nuit les surprit une fois au milieu d'un champ.
Maître, lui dit Saint-Pierre, voulez-vous que nous allions demander un asile dans la cabane que l'on voit là-bas ?
« Je le veux bien, » répondit le Seigneur.
Arrivés à la cabane, ils furent reçus par un vieillard qui les accueillit fort bien et leur offrit à souper. Lorsqu'ils furent à table, survint un des disciples.
« Qu'y a-t-il pour votre service ?» lui demanda le vieillard.
« Ne craignez rien, » dit Saint-Pierre, « il est des nôtres. »«
C'est bien, » dit le vieillard, et il l'invita à se mettre à table. L'apôtre accepta. Un instant après, il survint un second, puis un troisième, et ainsi de suite jusqu'au nombre de 12. Tous acceptèrent l'invitation.
« Allons, » pensa le vieillard, « patience, un convive en emmène 100. »
Le lendemain, Saint-Pierre dit au vieillard, « Celui à qui tu as donné l'hospitalité est notre Seigneur. Si tu as quelque grâce à demander, parle, je la demanderai en ton nom. » Le vieillard, qui était grand joueur, demanda sans façon à gagner toujours ce qui lui fut accordé. Quand son temps fut venu, la mort vint le chercher. Il s'empressa de la suivre, car,
dit Don Martin, il était vif comme moi. Pendant qu'il voyageait dans les airs, il aperçut une couple de diables qui emportait l'âme d'un procureur. Hé là, messieurs les diables, cria-t-il, voulez-vous faire une petite partie avec moi? Les diables, qui ne demandaient pas mieux, car les cartes avaient été inventées par eux, se rendirent à l'invitation. « Mais que jouons-nous » demandèrent-ils. « Tu n'as pas d'argent. »« C'est vrai, » répondit le vieillard. « Eh bien, je joue mon âme, qui est fort bonne, contre celle que vous emportez et qui ne vaut pas un maravédis. »« Soit, » dirent les diables, et l'on se mit à jouer. Il va sans dire que le vieillard gagna et emporta l'âme du procureur. Arrivés aux portes du ciel, Saint-Pierre dit au vieillard de la cabane « Je te connais, tu peux entrer. Mais tu n'es pas seul. Quelle âme si noire te suit ?»« Je ne suis pas seul, dit le vieillard, mais Dieu aima toujours beaucoup la compagnie. Cette âme si tachée d'encre, c'est l'âme d'un procureur. Ces gens-là n'entrent pas dans le ciel, entrent seuls. » « Quand vous vîtes dans ma cabane, dit le vieillard, vous étiez 12, et puisqu'un convive en emmène 100, je puis bien en amener un. » En disant cela, il força la consigne, suivi de son protégé. Don Martin dîna de fort bon appétit, et quand on eut servi le rôti, qui consistait en un énorme dindon, cuit à point, il fit venir la cuisinière, et après lui en avoir fait compliment, « Tiens, dit-il, en lui donnant un verre de très bon vin, bois à ma santé et à la tienne, pour que l'année prochaine, tu en prépares un aussi bon. »« Merci, seigneur Don Martin, dit la servante, en portant le verre à ses lèvres, et puissiez-vous vivre encore 1000 ans ?»« Pas 1000, ma fille, mais Dieu aidant, j'espère bien en vivre encore 10 ou 12. Je me sens fort comme la tour de l'église. » La lame est un peu usée chez moi, mais la trempe est bonne. » Une acclamation unanime de joie accueillit ces dernières paroles comme un présage de bonheur pour l'avenir. À ce moment, Don Martin se renversa sur le dos de son fauteuil et poussa un profond gémissement. Tout le monde se leva. « Allez chercher les saintes huiles !» dit l'abbé en s'élançant vers son frère. « Vite, un médecin !» ajouta Donia Brigida en détachant la cravate de son mari, dont le visage était pourpre. Paul sortit précipitamment. Les secours de la religion, ceux de l'art, arrivèrent, mais trop tard. La mort avait été instantanée. La dinde fumait encore, sur la table était à moitié plein le verre de vin que Juan n'avait pas eu le temps de vider en entier à la santé de son maître. Nous renonçons à peindre la désolation et la douleur que ce triste événement répandit dans la maison et dans tout le village. C'était une affliction profonde et générale, affliction sincère, que ne sauraient comprendre ceux qui n'ont vu de près aucun de ces hommes, pour lesquels la richesse et la puissance, loin d'être un moyen de briller et de dominer, ne sont qu'une raison de se montrer les protecteurs et les pères de tout un pays. Aussi, la nouvelle de la mort de Don Martin ne fut annoncée par aucun journal, mais elle passa de bouche en bouche comme un gémissement prolongé. On ne vit pas, à ses obsèques, un nombreux cortège d'élégantes voitures, mais il y eut une longue file de pauvres inconsolables. On ne prononça sur la tombe aucun panégyrique pompeux, mais on y versa beaucoup de larmes sincères, on y récita beaucoup de prières ferventes. Nulle main savante ne traça sur le marbre d'inscriptions fastueuses, mais toutes les bouches répétaient cette épitaphe « Ici repose le père des pauvres ». L'affliction de Donia Brigida était celle d'une femme vraiment chrétienne. Le dernier lien qui l'attachait à la terre venait de se rompre. Elle offrait à Dieu un cœur brisé mais ferme. L'abbé ne faisait aucun effort pour cacher sa douleur profonde et touchante. Clémencia et Paul étaient inconsolables. Au pied du lit, où gisait inanimé l'excellent homme que tous pleuraient, ils comprirent mieux la force et l'étendue de leur douleur mutuelle. Clémencia, tout en larmes, tenait serrées entre les siennes les mains froides de son beau-père, comme si elle eût essayé de leur rendre un peu de chaleur. Et Paul, sachant que la douleur a besoin de s'épancher au dehors, ne cherchait à donner à sa cousine aucune vaine et stérile consolation. Le lendemain, le corps du vénéré Don Martin fut emporté hors de cette demeure où il ne devait plus rentrer et déposé dans ce champ d'éternel repos où disparaît tour à tour la dépouille mortelle de tous ceux que nous aimons sur la terre. Les premiers jours de deuil étant passés, le temps commença à faiblir la violence de leur douleur. Leurs paupières, fatiguées par les larmes, s'abaissèrent, vaincues par le sommeil. Les cœurs brisés devinrent moins oppressés. Un profond silence succéda aux gémissements et aux soupirs. Une immobilité presque solennelle remplaça la fébrile agitation des jours précédents. Le deuil de l'extérieur annonçait celui qui régnait au-dedans. La vie revenait et l'on se demandait déjà quel serait l'héritier de cette immense fortune. Triste humanité qui, ne comprenant rien au-dessus des intérêts matériels, laisse à peine pour se recueillir le temps pendant lequel on porte la livrée de la douleur. Doña Brigida avait remis à l'abbé les clés de tous les meubles où il pouvait se trouver des papiers. Celui-ci réunit un jour la famille. « Je dois, dit-il, vous annoncer que je n'ai trouvé dans les papiers de mon pauvre frère aucune disposition testamentaire, et comme j'ai déjà renoncé depuis longtemps à tous mes droits sur la succession, Paul en est désormais le seul et unique héritier. » « Cela m'étonne, dit Doña Brigida, je connaissais les intentions de mon mari, que son âme repose en paix, et j'en éprouve un regret véritable pour Clémencia. » Quant à moi, décidé à me retirer dans le couvent de ma cousine, le douair que la loi m'accorde me suffira, et je serai heureuse de le partager avec toi, ma fille. » Clémencia se jeta dans les bras de sa belle-mère en pleurant de reconnaissance, non pour le bienfait en lui-même, mais pour cette marque touchante d'affection. « Ma sœur, dit l'abbé, je te remercie de ton offre généreuse, mais si Clémencia, la fille de mon adoption, ne craint pas de partager la vie tranquille et monotone d'un pauvre vieillard, elle n'aura pas besoin d'en profiter, je l'invite à rester auprès de moi. Mes dispositions sont faites, tout ce que je possède lui appartiendra après ma mort. » « Oh, mon oncle !» s'écria Clémencia, « que deviendrais-je si, après avoir été séparée de mes parents, il me fallait encore vous quitter ?» Paul, surpris et presque confus de se voir tout à coup le seul héritier de celui qui, peu de jours auparavant, avait menacé de le déshériter, ne trouva point de parole au premier moment. Enfin, s'étant un peu remis de son émotion et surmontant sa timidité, « Je sais, dit-il en s'adressant à l'abbé, et d'une manière irrécusable comme seul intéressé, que l'intention de mon oncle était de laisser à Clémencia, sa belle-fille, non pas la moitié, mais la totalité de sa fortune. Je croirais manquer à l'honneur si je ne vous faisais cette importante révélation. » « Ton oncle n'aurait jamais fait cela, dit avec calme Doña Brigida, qui aimait Paul et surtout la justice. » « Il espérait obtenir des lettres royales pour cet acte, reprit Paul. Mon pauvre frère a pu dire cela dans un de ces moments d'irréflexion qui lui étaient habituels, dit l'abbé. S'il avait eu cette intention, il aurait exécuté, ajouta Clémencia. Quoi qu'il en soit, Clémencia, répondit Paul, le seul moyen de concilier les droits de la justice avec ceux de notre mutuelle délicatesse, c'est de partager comme des frères. « Mais pourquoi veux-tu, Paul, que je te sois redevable d'un bienfait dont je n'ai ni besoin ni envie ?»« Ce n'est pas un bienfait, Clémencia, et d'ailleurs, redoutes-tu le fardeau de la reconnaissance ?»« C'est suivant le motif qui l'inspire. Jamais je n'ai trouvé à charge la reconnaissance que je te dois pour m'avoir sauvé la vie. » Ta réponse est subtile, Clémencia, et quand je te parle avec la cordiale franchise d'un frère, tu me réponds avec la froide raison d'une étrangère. Je vous comprends et je vous approuve tous les deux, dit l'abbé. Vos paroles sont inspirées par le plus noble désintéressement et la plus exquise délicatesse. Aussi, pour que ces sentiments ne deviennent pas une exigence importune chez toi, Paul, un éloignement injuste chez toi, Clémencia. Sachez, pour vous mettre d'accord, que si je fais Clémencia héritière de ma fortune, c'est en qualité de veuve déshéritée de mon neveu. Comme fille de mon adoption, je lui laisse des trésors d'une plus haute valeur. N'est-ce pas, ma fille ? « Oui, monsieur, oui, mon oncle, » répondit-elle en baisant la main du respectable vieillard. « Mon trésor le plus précieux est votre affection pour moi. »